Bonjour Frédéric, bonjour Sandrine. Vous faites tous les deux partie du mouvement des Gilets jaunes. Sandrine, toi, tu es plutôt sur Lens. Frédéric, toi, plutôt sur Béthune. On est content de vous accueillir dans les studios de Micro Rebelle. Ça nous permet aussi de rappeler que les médias ne traitent pas tous de la même manière le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est justement de ce traitement médiatique dont on a envie de parler aujourd'hui, et plus précisément d'un article qui a été publié récemment par La Voix du Nord et aussi par France 3 Nord-Pas-de-Calais, au sujet d'une manif qui aurait été interdite à Lens, manif qui s'organise pour le samedi 14 juillet, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors l'article titre Manifestation interdite. Alors est-ce que c'était vrai à l'heure où ils ont écrit leur article?
Non, c'était pas forcément vrai, dans la mesure où on nous avait dit cette journée-là au commissariat de Lens, avec le commissaire central, de refaire un papier avec les trois signatures des co-organisateurs de la manif et de transmettre à la sous-préfecture avec un parcours qu'on avait élaboré avec le sous-préfet, le commissaire central, le délégué de la mairie, le responsable des réseaux de TADAO, les renseignements territoriaux, quand on était allé à la sous-préfecture. Donc ce qui avait été en fait interdit par cet arrêté, c'est l'hypercentre de Lens, donc un périmètre bien spécifique, qui est totalement interdit à toute manifestation. Et la première déposition de manif que l'on a fait avait été interdite sur le parcours et sur l'amplitude horaire qui ne convenait pas. L'amplitude horaire trop grande avec une dislocation à 22 h, avec la nuit tombante, etc. Ils avaient peur que ça cause du trouble à l'ordre public. Et le parcours, on passait par le centre, le boulevard Bazille. Donc forcément, là, c'était le centre. Et on était roulé et on allait jusqu'au Louvre. Donc ça, effectivement, celle-ci a été interdite directement le jour du rendez-vous. La sous-préfecture nous ont dit que ça sera interdit.
Donc la réalité, c'est plutôt que à l'heure où ils ont écrit l'article, les pourparlers étaient en cours pour la manière dont allait se dérouler la manifestation.
Non, parce que le vendredi, on avait renvoyé un mail à la sous-préfecture avec le parcours qui avait été décidé avec le sous-préfet au rendez-vous et les horaires qu'on nous avait recommandés. Donc c'était déjà plus d'actualité.
Un des arguments qui est cité dans l'article pour faire interdire la manifestation, il y a quelques citations qui ont été piochées d'une vidéo Facebook que tu as réalisée,
Tout à fait.
Frédéric, et qui ont été assimilées à des appels à la violence, des appels à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Je cite, mettre la misère aux forces de l'ordre. Voilà comment les quelques mots qui ont été extraits de cette vidéo et qui ont été mis dans l'article de La Voix du Nord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous c'est biaisé? Est-ce que c'est extrapolé? Est-ce qu'ils ont sorti la citation de leur contexte?
Alors non, ils sont pas sortis de leur contexte. Étant donné la vidéo, ils ont pu croire que justement il y allait avoir de la violence ou autre, en sachant que on avait eu un autre rendez-vous avec le commissaire et que on s'était expliqué au niveau de la vidéo en leur expliquant que vu le rendez-vous qu'on a eu avec le sous-préfet et vu comment ça s'était déroulé, on était très énervés. Donc oui, en effet, il y a eu une vidéo. En aucun cas, on fait appel à la violence. On dit juste qu'on va jouer au chat et à la souris. Mais on s'est bien excusé par rapport à cette vidéo. On s'est excusé 3 ou 4 fois.
Donc ça a été mal interprété en fait.
Eux, ils ont pris pour acte que comme dans la vidéo, on n'a pas dit clairement on veut pas de violence, on veut pas de casse, mais qu'on allait faire courir la police, leur faire peur, parce qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, dans une manifestation, notamment Gilets jaunes, dès qu'ils voient quelqu'un en noir, ils en ont peur, même si c'est quelqu'un de le plus pacifique possible, ça leur plaît pas. Après, ça reste des hommes, attention, je critique pas les policiers. Mais ils en ont peur. Et ils ont peur aussi des actes que certaines personnes font. Il y a dans toute manifestation, que ce soit nous les Gilets jaunes, et depuis des décennies, il y a toujours de la casse, il y a toujours des gens qui s'y greffent et qui cassent. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors c'est vrai que les propos ont été maladroits, faire courir la police, leur faire peur. Bon, d'accord. J'ai fait de ce fait-là un correctif sur une deuxième vidéo. Parce que j'avais en plus des informations à donner concernant une association qui vient pendant que la manif va se dérouler pour la vente de sandwich, tout ça. Et je dis bien que, oui, effectivement, mes propos ont dépassé mes pensées.
Alors il y a quand même peut-être cette volonté de, en quelque sorte, tomber le gilet jaune, s'habiller en noir, c'est peut-être plutôt histoire de pas faciliter la tâche aux forces de l'ordre, sachant qu'on les a rarement vus aussi brutaux que depuis le début du mouvement des gilets jaunes.
Bah, c'est aussi, nous, comme on veut pas qu'il y ait de bagarre, qu'il y ait de casse, qu'il y ait de violence, c'est aussi dire et montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est habillé en noir que ça va tout casser de partout. C'est aussi une façon de réhabiliter. Moi, je suis en noir du 1er janvier au 31 décembre. Très rarement, j'ai de la couleur. Avec mes rangers, j'ai mes cheveux rasés. Alors, imaginez-vous les clichés que j'ai sur moi, quoi. Et ces clichés-là, faut, à un moment donné, il faut les faire tomber. Et c'est ce qu'on voudrait faire avec cette manif en noir ou sombre.
Un autre argument qui est employé dans l'article, c'est de dire que vous n'avez pas d'expérience pour organiser une manifestation. Qu'est-ce que vous en dites ?
Moi, j'ai organisé les nocturnes sur Béthune. Et là, c'était une nocturne pour le coup. Donc, avec la nuit tombante, on n'a eu aucun débordement, on n'a eu aucune casse. Quand la première nocturne, on passe devant le commissariat, ceux de Béthune qui étaient identifiés, qui faisaient la sécurité, on s'est mis entre les policiers et le cortège pour que les gens puissent passer devant le commissariat et qu'il n'y ait pas du tout de problème. On est passé devant le bureau de la députée. À ce moment-là, un manifestant interpelle un policier en disant « Je peux coller un autocollant où il y a Auric sur la vitrine ?» Il lui dit non. Il essaie d'insister, on lui dit non. Tu as posé la question, il t'a dit non. Avance, ça sert à rien. De toute façon, on va pas se battre là, c'est pas le but. Le but, il est de se montrer, de faire du bruit, de que les gens, ils savent qu'on est là encore présent.
Alors jusque-là, on a parlé de ce qu'il y avait dans le premier article et de la manière dont vous contestez justement les affirmations qu'il y a eu et les citations qui ont été prises. Néanmoins, la Voix du Nord est revenue vers vous et a publié un deuxième article où ils ont eu en quelque sorte un revirement, où là c'est une véritable interview. Vous avez pu vous exprimer et pas des citations piochées à droite, à gauche. Comment on explique ce revirement d'après vous ?
Alors là, c'est la bonne question. On a eu, donc il fait l'article paraît lundi après-midi, je crois. Mardi matin, nous avions rendez-vous avec les renseignements territoriaux, ce qui est obligatoire pour toute manif déclarée. Et en sortant des renseignements territoriaux, donc moi je me permets d'appeler Fréquence Horizon, qui avait aussi mis un article « Manifestation interdite ». Cette dame, bien gentille, me prend le correctif et me dit qu'elle le passe à midi. Et d'un seul coup de téléphone, la personne de la Voix du Nord. Il m'a demandé si on était encore sur Lens. Donc est-ce que de source interne, il avait appris qu'on allait aux renseignements territoriaux ? Et puis de là, il nous a rejoint, et on est allé boire un café, on a fait l'interview qu'il aurait dû faire avant de diffuser son premier article, en fait.
Est-ce qu'il s'est, je sais pas, justifié ?
Non, on a donné des preuves, hein. De toute façon, on avait les documents sur nous, précisant bien le chemin à prendre, les horaires et les mails qu'on avait reçus au niveau du sous-préfet, donc...
Après, ce monsieur, il avait vu donc la deuxième vidéo juste avant de venir. Vidéo qui était parue au soir, au vu de tout ce qui avait été dit, etc. Et pour qu'il précisait aussi les nouveautés de la chose. Et il l'a regardé juste avant de venir. Donc il y avait peut-être aussi un autre regard par rapport à juste un communiqué qu'on lui avait balancé comme ça. Sans chercher plus loin, quoi.
Alors c'est peut-être quand même symptomatique, justement, de la manière dont les médias traite du mouvement des Gilets jaunes, et je pense particulièrement à deux points. Comme tu viens de le dire, c'est de relayer des communiqués de préfecture, et puis la deuxième, c'est aussi plutôt de faire des articles qui sont négatifs, quoi, qui sont en train de pourrir un peu, en quelque sorte, une mobilisation sociale pourtant existante et qui porte des revendications.
Oui, non, mais après, c'est sûr et certain que la plupart des médias, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas comme ça, mais la plupart des médias minimisent l'impact des Gilets jaunes, nous insultent, si je peux me permettre de le dire, d'alcooliques, de fainéants, de chômeurs, de tous les maux de la terre, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore chef d'entreprise, et j'étais Gilet jaune. On a des avocats qui sont gilets jaunes, on a des médecins, on a des ingénieurs, on a des ouvriers, on a des femmes au foyer, on a aussi des gens qui sont au chômage, on a des retraités, on a des personnes à mobilité réduite ou avec un handicap divers et varié. Et c'est pas que des chômeurs, des alcooliques qui sont sur les ronds-points. Quand il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a eu une émission où on entendait un journaliste ou un intervenant sur une émission. Grande émission d'information, donc il n'y en a que deux en France, je vous laisse le choix, qui disait, oui, à 9h, on est déjà à la bière sur le coin d'un rond-point. Nous, on n'a jamais eu un problème sur Béthune, on était au niveau de Décathlon, on a été au niveau de Winston Churchill. Quand on est arrivé à avenue Winston Churchill, on avait invité les policiers à, quand ils passaient, descendre, pour bien qu'ils constatent eux-mêmes qu'il n'y ait pas de souci, et qu'au cas où ils passent, on est embêté, leur indiquer le problème pour que ça soit réglé le plus vite possible. Et il n'y avait pas d'alcool sur le camp des Gilets jaunes de Béthune.
Chose que j'ai pu remarquer dans la plupart des ronds-points où j'ai pu me rendre. En général, l'alcool était interdit.
Oui, parce que c'est source de conflits.
Ouais, bien sûr. Où en est, en cette rentrée de septembre, le mouvement des Gilets jaunes, enfin au moins localement, pour vous? C'est vrai que l'été, c'est pas toujours très propice aux mobilisations sociales, hein, que ce soit les mobilisations syndicales ou que ce soit les mobilisations populaires. Donc là, comment ça se réorganise en ce début septembre?
Ça se réorganise relativement bien au niveau local. La semaine dernière, il y avait une manifestation à Lille. Cette semaine, il y a nous et il y a Lille qui veut faire un autre truc. Il y a Aulnoy-Aymeries. La semaine prochaine, il y a Douai qui fait aussi une manifestation là pour la convergence. Donc ça se remet en place relativement bien. Et quand je vois un article 650 personnes à Lille, samedi, j'y étais, on était au minimum 1500. Après, bon, on va pas revenir sur l'histoire des comptages, c'est un autre débat. Mais les gens, ils ont eu besoin aussi de repos, de passer du temps en famille. On est tous des pères, des mères, des enfants et des parents d'eux, et il faut aussi qu'on passe du temps avec eux. Et pendant l'année, on était tous les week-ends sur le pont, on faisait des actions de blocage pendant la semaine, des nocturnes le vendredi. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi se couper.
Et Sandrine, sur Lens, est-ce que ça... C'est vrai qu'ici, il y a eu le rond-point d'Elleux,
oui,
qui a beaucoup été occupé pendant même une bonne partie de l'année 2019 et la fin de l'année 2018. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans le bassin minier lensois?
Donc là, j'ai rendez-vous jeudi justement avec le maire pour moi-même reprendre le rond-point avec deux autres personnes. On va remettre aussi en place énormément de manifestations sur Lens. Et on va faire en sorte qu'il y a pas mal de choses qui bougent au niveau de Lens.
Dernier point, les revendications restent les mêmes?
Tout à fait, la hausse du pouvoir d'achat, la baisse du carburant, le RIC. Et si on parle du RIC, on parle aussi de la reconnaissance du vote blanc et du vote obligatoire. C'est les trois grosses choses. Après, le RIC nous permettra d'enlever les privilèges à vie de gens qui n'en ont pas forcément besoin. Parce que nous, quand on se fait licencier, ben malheureusement, on n'est pas rémunéré à vie. On va à Pôle emploi et puis on fait avec ce qu'on a et puis on se débrouille pour retrouver du boulot. Et ça serait bien qu'eux, ils le fassent aussi, si tant est, savent ce que c'est que de travailler.
Merci à Sandrine, merci à Frédéric d'être venu dans les studios. On se recroisera très prochainement, ici ou ailleurs, sur un rond-point ou dans les rues.